Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. L'armée russe recule. Les forces ukrainiennes viennent de reprendre la ville d'Irpine aux portes de Kiev. L'état-major russe, on le sait, a créé la surprise en annonçant vouloir se concentrer désormais sur l'est du pays. L'Info C'est clair est intitulé Vladimir Poutine, le début de la fin. Nos invités, général Vincent Desportes, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Vous avez été commandant de l'école de guerre et vous allez publier le 4 avril « Viser le sommet ». C'est aux éditions de Noël, on en parlera pendant cette émission. Benjamin Haddad, vous êtes chercheur en relations internationales, directeur du Centre Europe du think tank The Atlantic Council, auteur des Paradis perdus, c'est aux éditions Grasset. Et Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro. Vous avez été correspondante en Russie et vous êtes l'auteur de Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, la ville d'Irpine à côté de Kiev a été libérée. Et puis plus au sud également, nos reporters ont pu constater que l'armée russe s'était retirée de nombreuses villes et villages à proximité de Mykolaïv. Reportage d'Angélique Forger et Antoine Védeillé.
Il y a encore quelques jours, cette route au nord-est de Mykolaïv était contrôlée par les Russes. Aujourd'hui, ils sont repartis et les villages tout autour ont été reconquis. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau, comme ici à Batchanka, 12 000 habitants. Dans ces faubourgs, des carcasses de véhicules russes détruits par les Ukrainiens. Cet habitant est fier de nous montrer ce camion lance-roquettes anéanti en plein champ.
Ce véhicule traversait notre village. Quand il est passé, on lui a crevé les pneus et il a fini sa course ici. C'est là qu'on l'a complètement détruit.
La menace s'éloigne. Et à une heure de route, la grande ville de Mykolaïv, encore sous le feu des bombes il y a quelques jours, retrouve un peu de calme. Les habitants ressortent et achètent leur pain comme avant.
Les choses ont changé. On revient à la normale et j'espère que ça va durer.
Mykolaïv, dernier verrou avant Odessa, a résisté. Et les chars russes frappés du Z qui entrent aujourd'hui dans la ville sont ceux qui ont été défaits.
Alors, général Vincent Desportes, quelle analyse et que sait-on de ce qui se passe en Ukraine? Parce qu'on s'est beaucoup interrogé après cette déclaration de l'état-major russe qui a dit désormais vouloir se concentrer sur l'est du pays et libérer le Donbass. On s'est demandé, est-ce que véritablement les tanks russes vont se retirer ou est-ce que c'est une feinte?
Écoutez, moi, je dirais que c'est le respect de ce que disait Clémenceau. Ne pouvant dominer ces événements, feignons de les avoir organisés. C'est-à-dire qu'on est exactement dans ce que Clausewitz appelle un point culminant. Les Russes ont commis un certain nombre d'erreurs majeures qui viennent de leur défaut d'appréciation de ce qu'était le peuple ukrainien et M. Zelensky. Et là, ils sont arrivés au bout de leur capacité d'offensive. Et donc, ils sont en train de se rétablir. Pour faire quoi? On ne sait pas. Et la question est, est-ce que c'est une pause opérationnelle ou est-ce que c'est une pause stratégique? On le verra plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont obligés de s'arrêter pour se recapitaliser. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que la logique de la guerre n'est pas une logique linéaire, quoi qu'il arrive. Elle est une logique syncopée, j'attaque, je me reconstitue, je réattaque, etc. Donc on est dans cette phase-là, ce qui explique qu'à Kiev, d'ailleurs, on recule un peu pour tenir sur des positions probablement plus confortables à tenir que les positions précédentes, ce qui ne présage pas de ce qui va se passer par la suite. Et probablement, nous sommes dans une phase dont il faut, au niveau diplomatique, essayer de tirer parti. Elle est évidemment une preuve de faiblesse de la Russie, mais la Russie qui peut recapitaliser un peu, parce qu'elle a quand même engagé la plus grosse partie de ses forces, et éventuellement repartir vers l'avant après la fin de la Rasputitsa, c'est-à-dire qu'on a probablement à peu près un mois de pause devant nous.
Isabelle Lasserre, c'est incroyable, dans le reportage, on voyait là ce lance-roquettes qui avait été pris par des civils, hein. C'était probablement un civil, le gars, il disait, on lui a crevé les pneus, et puis voilà, on a fini de l'achever dans le champ. On parlait d'une guerre asymétrique au début. en pensant que c'était les Russes qui étaient très très forts et le pauvre peuple de civils ukrainiens, ben, cette grande armée russe, elle a quand même exposé aux yeux du monde ses limites.
C'est toujours une guerre asymétrique, hein. ça n'a pas changé. Et c'est toujours David contre Goliath. Mais d'un côté, il y a des gens qui luttent pour leur patrie, qui sont engagés dans une guerre de patriotique quasiment. Et en face, il y a des gens qui ne savent pas vraiment pourquoi ils luttent. Donc l'asymétrie finit par se renverser en quelque sorte. Bon, il faut effectivement se méfier. L'armée russe reste beaucoup plus puissante que l'armée ukrainienne. Et la guerre n'est pas terminée, donc ça peut être effectivement une pause dans le conflit. Mais ce qui est certain, et ça a été quasiment dit par les Russes vendredi dernier par le commandement russe, c'est que bon, de toute façon, l'objectif initial qui était de prendre Kiev, de faire tomber le gouvernement, voire de détruire l'Ukraine, hein, parce que dans les premiers jours qui ont suivi le début de l'offensive, c'est un petit peu le discours qu'on avait à Moscou. Cet objectif-là a complètement raté. Donc on a l'impression aujourd'hui que ne pouvant offrir ce but de guerre à la Russie, Vladimir Poutine est en train de se recentrer dans le sud et dans l'est du pays.
Avec un récit de...
Oui, mais ça, il y a toujours le récit. Ouais, à côté, mais voilà, dans ce bout de d'empire, en fait, hein, d'ex-empire, il pourrait tout à fait vouloir avoir rabaissé son objectif. Et là, c'est un but de guerre qu'il peut tout à fait souffrir, c'est-à-dire un gros Donbass, augmenté par rapport au Donbass qui était en fait occupé via les séparatistes juste avant le début de la guerre. Et là, il peut tout à fait dire, regardez, je vous offre le Donbass et il
on
peut présenter ça.
De l'Ukraine.
Enfin, on aurait. En tout cas, c'est ce que semble vouloir Vladimir Poutine. Mais il y a deux parties dans la guerre. Ouais. Je ne vois pas aujourd'hui les Ukrainiens qui ont tellement bien, qui ont si bien résisté, je ne les vois pas capituler aujourd'hui.
Tant qu'ils ont le vent dans le dos, là. Benjamin Haddad, est-ce que quand même, il ne faut pas commencer à en tirer une leçon? Ces grandes armées, alors là, l'armée russe, enfin, c'est quand même pas rien, qui n'arrivent pas à faire tomber... À prendre Kiev et à faire tomber un régime qui est à ses portes, hein, donc à portée de char, sans parler de l'armée américaine, 20 ans, la première armée du monde, 20 ans en Afghanistan, et qui part piteusement de Kaboul. En fait, ces grandes armées sont des armées de papier face à la volonté des peuples. C'est un peu ça l'enseignement de... D'ailleurs, c'est plutôt réconfortant, ce à quoi on vient d'assister, en l'espace de 6 mois, hein, parce que... La déroute, le chaos d'Afghanistan, c'était en août dernier.
Bien sûr. Le général Desportes parlait du point culminant de Clausewitz. Clausewitz, il avait été frappé par la bataille de Valmy, où il avait vu pour la première fois vraiment une armée nationale, l'armée française, lutter et l'emporter. Et effectivement, quand on parle de guerre asymétrique, on peut parler d'asymétrie de moyens entre l'agresseur et l'agressé, mais il y a aussi l'asymétrie des volontés. C'est-à-dire que c'est ce que disait Isabelle Lasserre. Vous avez d'un côté des Ukrainiens qui luttent pour l'existence de leur pays, donc ils sont dans une guerre totale. Et de l'autre côté, les Russes qui, certes, effectivement, au début, se sont lancés avec comme objectif une guerre totale de décapiter le leadership politique à Kiev et d'occuper le pays. Mais les soldats russes qui ne savaient même pas, jusqu'à la veille de l'invasion, qu'ils devaient partir tirer sur des Ukrainiens, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils sont dans une logique d'occupation, d'agression. Et on voit bien que le moral des troupes est très bas. On voit bien qu'il y a aussi des difficultés logistiques et opérationnelles de la part de la Russie et que les Russes ont totalement sous-estimé non seulement la résistance des Ukrainiens, mais quand on entend les discours de Vladimir Poutine, on était dans la négation même de l'existence d'une nation ukrainienne. Il était convaincu que Zelensky était une sorte de dirigeant fantoche imposé par les États-Unis, qu'il allait décamper dès que les Russes allaient rentrer. On voit bien qu'il y a une erreur profonde d'appréciation et de renseignement sur ce qu'est l'Ukraine, et ce qu'est l'Ukraine d'ailleurs beaucoup depuis 2014, hein, et depuis le début de cette guerre. Alors maintenant, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, hein, et ça c'est ce qui a déjà été dit, ce qu'on voit sur le terrain. Est-ce qu'on est dans une forme de réorganisation de la part de la Russie pour mieux attaquer plus tard? On voit bien qu'ils se sont déployés très rapidement sur l'ensemble du territoire et avec vraiment des
limites. Ils ont dispersé leurs forces.
Ils ont vraiment dispersé leurs forces. Donc maintenant, effectivement, ils ont l'air de se reconcentrer sur le Donbass et pour essayer de construire une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée via la ville de Mariupol. C'est pour ça que les combats à Mariupol ont été si stratégiques. Mais il ne faut pas oublier que le Donbass, dont Vladimir Poutine avait reconnu l'indépendance la veille de l'invasion, le 23 février, ce n'est pas le Donbass qui est en ce moment occupé par les séparatistes pro-russes de Donetsk et Louhansk. Donc de toute façon, il va y avoir beaucoup de combats. Et on a vu des villes russophones, dont on elle disait qu'elles tomberaient aux mains des Russes si facilement, qui résistent aussi farouchement en ce moment. Donc le combat est loin d'être terminé.
Voilà, plus d'un mois de guerre, hein, l'armée russe recule. Était-elle mal préparée ou mal renseignée, cette armée russe ? Élément de réponse avec Mohamed Mezrahi. Le sujet va arriver. S'il arrive, il va arriver, me dit-on.
Bon. Jusqu'ici, les principales avancées de la Russie ont eu lieu dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, mais aucune grande ville n'a encore été conquise. Une armée russe qui n'était peut-être pas assez bien préparée. Des dizaines de transmissions radio non cryptées ont été vérifiées et dévoilées par le New York Times en début de semaine. Elles révèlent une armée russe avec des problèmes logistiques et des défaillances de communication interceptées par l'armée ukrainienne.
Ça fait une heure qu'on vous a demandé des avions en renfort. Vous avez oublié, putain !
Sans aucune prudence, même les plans d'attaque de l'offensive russe ont pu être interceptés.
Ordre est transmis à toutes les unités russes de quitter la zone résidentielle. Notre artillerie va viser ce secteur.
Et les radios amateurs ukrainiens qui surveillent ces fréquences ouvertes ne se privent pas de brouiller les communications russes avec les moyens du bord. Des insultes, des cris de cochon ou encore une version métal de l'hymne national ukrainien. Au sujet des pertes sur le terrain, la Russie donne aussi un chiffre officiel qu'elle estime à 1351 militaires tués depuis le début de la guerre. Un chiffre bien en dessous des estimations données par Kiev et par d'autres observateurs du conflit.
Alors, général Vincent Desportes, votre regard d'expert militaire, qu'est-ce qu'il a sous-estimé, Vladimir Poutine ? Apparemment, l'armée russe n'était pas tout à fait prête à ce qui est en train de ressembler à une guerre d'usure. Je crois que vous en parlez dans votre livre.
Oui, absolument. Moi, je crois que le président Poutine a fait l'erreur la plus grave qu'on peut faire en stratégie, c'est qu'il a méprisé l'autre, ce qui est toujours une erreur grave. La stratégie, c'est un rapport entre le soi et le non-soi. Mais si je n'ai pas compris le non-soi, je ne peux pas faire de stratégie. Et donc, il fait ce que dit Francis Bacon, c'est-à-dire qu'il a cru vrai ce qu'il voulait être vrai. Et donc, il a méprisé son adversaire sans reconnaître ce qu'il était vraiment pour un certain nombre de raisons.
C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête de son adversaire.
C'est la base de la stratégie. Il faut que je me voie comme l'autre me voit. Et lui n'a pas réussi à voir l'Ukraine telle qu'elle était, telle qu'était M. Zelensky, telle qu'était le peuple. Et ça me rappelle, dans mon livre « Viser le sommet », j'interviewe le général McChrystal, qui est un général américain bien connu, et qui, quelque part, devant l'incapacité à gagner la bataille en Afghanistan, jette l'éponge et se suicide politiquement. Et il dit « Au Vietnam, nous n'avons pas compris ce que les Vietnamiens étaient prêts à payer » pour ne pas tomber sous le joug américain. Et il dit, en Irak, ça a été la même chose, et en Afghanistan, ça a été la même chose. Et là encore, donc ça, c'est les Américains. Erreur, ce qui a conduit aux défaites que l'on connaît, mais là, c'est la même chose. Je crois que M. Poutine n'a pas compris, dès le départ, le prix que les Ukrainiens étaient prêts à payer. Donc, lui n'a pas fait la guerre, on s'en rappelle. Il a fait une opération militaire spéciale. Alors, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il ment. En fait, non. C'est bien ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais me jeter sur cette proie. En 3 jours, j'aurai pris Kiev. Et donc, en fait, il ne s'est pas véritablement préparé à la guerre. D'où les problèmes de recrues qui combattent, d'où les problèmes de logistique, d'où les problèmes de réapprovisionnement. C'est-à-dire qu'au fond, il n'a pas imaginé véritablement qu'il ferait la guerre contre un ennemi à sa hauteur. C'est l'erreur la plus grave qu'on peut faire en stratégie. La stratégie, c'est comprendre l'autre, arriver à se mettre dans la tête de l'autre, comprendre son intention. C'est effectivement ce que j'explique dans mon livre « Viser le sommet ». Et visiblement, c'est l'erreur majeure de Poutine et de ses généraux.
Ça rappelle la phrase d'Emmanuel Macron, hein. « Tu te racontes des histoires, ton peuple, ton pays va le payer très cher », Isabelle Lasserre.
Oui, mais tout cela est vrai, mais... Par exemple, si on prend l'exemple de la Tchétchénie, parce qu'il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, bon, c'était Boris Eltsine, la première guerre de Tchétchénie, mais à l'époque, le commandement russe avait promis à Boris Eltsine une victoire en 48 heures ou en 3 jours. Il a fallu 2 guerres et 15 ans. La Russie avait, et même celle de Poutine après, puisque la deuxième guerre, c'est Vladimir Poutine qui la déclenche. Vladimir Poutine, là aussi, avait complètement sous-estimé en fait la volonté de son adversaire et sa puissance de résistance.
Donc c'est un mauvais stratège.
Non, mais à la fin, il a gagné.
D'accord. En tous les cas,
alors, il a dû raser la Tchétchénie, mais quelquefois, ça peut marcher.
La Russie dans le monde, elle a pas beaucoup de choses qui lui apportent du prestige. On va pas dire que ce sont ses start-up, ou son cinéma, sa musique. Elle a son armée. Son armée est respectée dans le monde comme étant l'une des armées les plus solides du monde. Et elle a libéré, on peut dire, nous a libéré du nazisme. Pourquoi est-ce que l'armée russe, est-ce que dans les rangs de l'armée russe, il y en a qui sont furieux contre Vladimir Poutine, qui a exposé aux yeux du monde, on vient de le voir là, on a vu dans le reportage, ce lanceur de roquettes, on lui avait crevé les pneus, il s'est retrouvé dans un champ parce que trois civils lui sont tombés dessus.
Il y a la littérature quand même, en plus de l'armée.
En fait, la littérature, mais, c'est passé.
Mais, oui, non, ça reste quand même. Mais visiblement, il y a eu des grincements dans l'entourage militaire de Vladimir Poutine, puisqu'il y a eu la semaine dernière un début de purge et qu'il y a au moins trois personnes qui ont été écartées. Donc il est évident que le haut commandement, enfin en tout cas plusieurs généraux, on fait part de leur incompréhension et de leur désaccord. Mais il faut quand même
voir
que...
Le fait que vendredi, ce soit l'état-major russe et non pas un représentant du Kremlin qui se soit exprimé, est-ce qu'on peut imaginer y voir un signe ?
Alors, vous savez, là, on est vraiment... depuis la radicalisation de Vladimir Poutine, le Kremlin est redevenu un espèce de trou noir. Et en fait, il faut quand même être honnête, c'est que personne n'en sait rien. Et aujourd'hui,
ça vous a surprise de voir l'état-major russe prendre la parole vendredi pour dire bon bah écoutez, on va revoir à la baisse nos prétentions là.
Non mais si l'état-major russe prend la parole pour dire ça, c'est qu'il a eu un ordre de Vladimir Poutine. Hein. Il n'y a pas un état-major russe qui fonctionne de manière différente. Hein. C'est Vladimir Poutine concentre absolument tous les pouvoirs, donc c'est lui forcément qui l'ordonne. Alors il est furieux sans doute contre une partie de son état-major qui lui a vendu une victoire militaire très très rapide à Kiev, avec une victoire aussi politique, hein, décapiter le gouvernement et mettre à sa place une marionnette politique. Mais en même temps, il faut quand même rappeler que Vladimir Poutine s'entoure de gens qui lui ressemblent un petit peu et qui ne le contredisent pas. Et ce n'est pas forcément les plus compétents qui sont dans l'entourage de Vladimir Poutine. C'est sans doute les plus loyaux. Et, mais aujourd'hui, on en est à nouveau réduit à essayer d'imaginer ce que pense Vladimir Poutine et comme à l'époque de soviétique, en analysant des discours, en voyant qui est sur la photo. Alors là, on a vu le ministre de la Défense, par exemple, disparaître pendant 10 jours.
D'accord.
Et on l'a vu effacé sur des fausses photos, comme à l'époque stalinienne. Puis là, il est revenu. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine aujourd'hui et au Kremlin. Mais heureusement, on a toutes les télécommunications, enfin toutes les interceptions des militaires russes, et on arrive
le moral de l'armée
russe. Les craquements du système.
Mais justement, tout en haut de la pyramide, général Vincent Desportes, est-ce qu'on peut imaginer quand même que s'il y ait quelques grincements dedans, et en se disant où est-ce qu'il nous emmène, ce Vladimir ? Et un début de, peut-être pas de contestation, d'interrogation.
Alors je ne sais pas, mais ce que l'histoire nous apprend, c'est que les armées suivent pendant un moment, même quand elles commencent à perdre, à un moment donné, elles s'effondrent, si vous voulez. Donc je ne sais pas, il faut être dans la tête de Poutine, dans la tête de ses généraux, j'en sais rien. Mais c'est toujours comme ça dans les armées, ça marche, et puis tout d'un coup, ça s'effondre. Ça, c'est l'histoire des guerres, l'histoire du monde. Donc on peut voir ça avancer pendant un certain temps, se poser ce genre de questions, et puis du jour au lendemain, voir les choses se retourner. Je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit, et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Isabelle Lasserre, mais je dirais, il est dans la tradition politique de ne jamais annoncer clairement ses objectifs, parce que la plus grande faute, c'est de se déjuger. Donc on fait dire par d'autres, les présidents français, quand ils envoient leur armée à la guerre, ils disent jamais ce qu'ils veulent faire. Et puis petit à petit, après, on dit, ok, c'est ce que j'avais dit, on l'a fait, ou je ne l'ai pas dit, donc je ne me suis pas déjugé. Et d'ailleurs, M. Poutine, c'est bien qu'il faudra qu'il revienne à un moment donné et qu'il dise, j'ai gagné quelque chose. Et donc, il a eu la prudence de dire, je ne vais pas prendre l'Ukraine, et donc là, il pourra dire, en disant, mais finalement, j'ai pris le Donbass, c'est ce que je voulais.
Benjamin Haddad, il y a des négociations aujourd'hui en Turquie pour un cessez-le-feu, pour essayer de trouver un accord. Est-ce que, j'allais dire, de part et d'autre, aussi bien côté russe que côté ukrainien, on a envie de baisser les armes ou est-ce que non ? On n'est pas encore à ce point-là et on a envie d'en découdre de chaque côté.
Alors, côté ukrainien, le président Zelensky, depuis longtemps, en fait, dit qu'il veut rencontrer Vladimir Poutine et qu'il est prêt à négocier. Il le disait déjà avant l'invasion. Et on le sait, en fait, là, aujourd'hui, on voit le Zelensky héroïque, courageux, qui reste, alors qu'on sait qu'il est ciblé personnellement. Mais Zelensky, c'est aussi un pragmatique. C'est quelqu'un qui avait été élu en 2019 pour régler le problème avec la Russie sur le Donbass et se concentrer sur les réformes économiques, la lutte contre la corruption, le rapprochement avec l'Union européenne. Il a déjà annoncé, par exemple, que sur un sujet comme l'OTAN, il était prêt à revenir sur la candidature ukrainienne parce qu'il voit bien, de toute façon, que les portes de l'OTAN ne sont pas ouvertes à l'Ukraine en échange de garanties de sécurité qui pourraient venir, par exemple, des États-Unis. En revanche, là où les Ukrainiens ont été très clairs, ils ne veulent pas revenir sur l'intégrité territoriale de leur pays. Ça, effectivement, on peut les comprendre parce que ce serait donner une sorte de récompense à l'agression de la part
donc
de
Donc ils ne lâcheront pas le Donbass, les Ukrainiens ?
Ils ne lâcheront pas le Donbass. En revanche, il y a des formules. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les accords de Minsk, à l'époque, qui aujourd'hui sont totalement caduques, évidemment, depuis l'invasion, mais on pourrait imaginer des formes d'autonomie, des formes de décentralisation, et je crois que c'est ce type de formule dont on va discuter. Côté russe, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'évolution. Alors, le général Desportes le disait, quand on donne des buts de guerre, au fond, aussi vagues que la dénazification, la neutralisation, ouais, la démilitarisation. Alors évidemment, ça donne l'impression d'une guerre totale. C'est ce qui était, en tout cas, la posture russe au début. Mais ça peut donner un peu de flexibilité côté russe pour sortir en disant, par exemple, neutralisation, ça veut dire les Ukrainiens ne rentrent pas dans l'OTAN, même s'ils ont des garanties de sécurité, mais ils peuvent se rapprocher de l'Union européenne. Donc, sur le plan politique, économique, institutionnel, ils seront plus proches de l'Europe. C'est aujourd'hui le cas de la Suède et la Finlande, par exemple. Bon. Je crois qu'on en est encore très loin et qu'il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on voit. Mais pour revenir peut-être une seconde sur ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, au fond, on ne peut pas le savoir et ça ne sert pas vraiment de spéculer longuement sur sa psychologie. En revanche, il y a des faits objectifs, c'est-à-dire qu'on peut changer ses incitations, son calcul avantage-coût. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, en faisant accroître le coût de l'agression sur Vladimir Poutine avec les sanctions, l'isolement diplomatique et évidemment les livraisons d'armes aux Ukrainiens. Là, effectivement, on force Vladimir Poutine, par la réalité du terrain, à essayer de changer ses calculs. C'est la seule stratégie qu'on peut avoir, plutôt que de s'interroger sur ce qui pourrait être dans sa tête, c'est de faire changer vraiment les conditions objectives autour de lui.
Alors, Vladimir Poutine n'avait pas ou avait mal imaginé la résistance du peuple ukrainien. Il n'avait pas non plus anticipé l'unité des Occidentaux, européens et américains, main dans la main, pour dénoncer cette invasion en Ukraine. Joe Biden était ce week-end en Pologne. Je vous propose de revoir ce sujet sur le voyage du président américain en Pologne, qui a eu des propos qui ont été diversement appréciés. On regarde et on en parle juste après. C'est un sujet de Carole Cuello.
Un discours très attendu et offensif. À Varsovie, la ville du pape Jean-Paul II, Joe Biden commence par reprendre une de ses phrases historiques.
N'ayez pas peur.
Avant de demander purement et simplement le départ de Vladimir Poutine.
Cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Que Dieu vous garde, tous, et défende notre liberté. Et que Dieu protège nos soldats.
Un peu plus tôt dans la journée...
Oh, qu'elle est grande.
Joe Biden est allé au contact des réfugiés. Cette petite fille un peu intimidée de se retrouver dans les bras du président. Il s'adresse aussi à cette femme.
Nous reconstruirons votre pays.
Nous vous faisons entièrement confiance.
Quand un journaliste lui demande « Que pensez-vous de Vladimir Poutine ?» En présence du président polonais, il a à nouveau fixé une ligne rouge. En cas d'attaque d'un pays de l'OTAN, la riposte sera immédiate. Au terme de 4 jours de voyage, le président affirme que cette guerre est d'ores et déjà un échec pour Vladimir Poutine.
Il n'empêche, Benjamin Haddad, cette déclaration a été beaucoup critiquée quand Joe Biden a dit que Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir. Tout le monde a parlé d'une gaffe à tel point que la Maison-Blanche, par la suite, a dit « Mais non, mais c'est pas tout, vous avez mal compris, c'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire », alors qu'il l'a bien dit, on vient de l'entendre.
Oui, alors, visiblement, c'était pas prévu dans le discours. C'était une petite sortie de route de la part de Joe Biden, une sorte de cri du cœur, c'est ce qu'il a dit. Ça dénote pas un changement de politique, et ça, je crois que c'est vraiment ce que Joe Biden et l'administration ont confirmé après. Les États-Unis sont évidemment pas dans une logique de regime change, puisque depuis le début
de changement de régime
en Russie, puisque d'ailleurs depuis le début ils disent qu'ils ne vont pas s'engager militairement sur le terrain ukrainien. Ils avaient retiré les quelques 160 troupes qu'ils avaient en Ukraine avant même l'invasion. Donc
Ils font le front transatlantique avec les alliés. C'est pour ça que Joe Biden était en Europe cette semaine, les livraisons d'armes, les sanctions. Mais je ne crois pas qu'il y ait une logique plus en avant. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer l'impact de ce type de remarques, en particulier sur Vladimir Poutine lui-même, puisque l'an dernier, à peine élu, Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de tueur. Deux mois après, ils étaient assis l'un en face de l'autre à Genève pour parler des contrôles d'armement. Donc on est aussi, de la part des Américains, dans une logique de rapport de force par rapport à la Russie. Quand Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre ou de boucher, je pense que ça n'empêchera en rien les Américains, après, de lancer un processus diplomatique avec la Russie. Mais c'est vrai que sur cette histoire de changement de régime, il faut être plus prudent, parce que ça envoie un signal ambigu aussi aux alliés des États-Unis. Donc c'était important pour la Maison-Blanche de faire ce recadrage.
Isabelle Lasserre-Hill, c'est Biden machine à gaffe ou délicieusement authentique, hein. Et au fond, est-ce qu'il n'a pas dit le fond de sa pensée, et c'est ce qu'on lui reproche?
Les deux, mon général. Mais si je peux me permettre, on ne lui reproche pas partout. C'est-à-dire que les Ukrainiens, les Polonais ont trouvé ça formidable, et ils voient enfin un président américain qui parle de manière limpide de ce qu'est vraiment Vladimir Poutine.
Donc Poutine avait raison quand il dit, bah, en fait, les Américains, quand on ne leur plaît pas, ils vous dégagent, ils ont fait ça avec Saddam Hussein.
Non, parce qu'il n'y a pas de politique de changement de régime dans l'administration américaine aujourd'hui. Ça fait le troisième président, donc Barack Obama, Donald Trump et aujourd'hui Joe Biden, qui ne cessent de dire que justement ils vont arrêter cette politique de changement de régime et qu'ils vont arrêter de s'impliquer dans des guerres et de faire des opérations extérieures. Donc il n'y a pas de sujet là, en fait. C'est Joe Biden qui serait assez satisfait si Vladimir Poutine quittait le pouvoir. Il reste que c'est quand même très indélicat. Et c'est très indélicat...
Oui, que le président américain fasse une gaffe à la frontière polonaise, à la frontière ukrainienne...
Non, mais à l'est de l'Europe, les peuples ont apprécié. Le problème, c'est qu'en fait, ça nourrit tout l'anti-américanisme de base qui existe dans certains pays d'Europe occidentale, notamment, par exemple, en France. Et c'est exactement donner un petit peu de la nourriture aux propagandistes russes qui, depuis, toujours disent, regardez, en fait, les Américains ont toujours fait la même chose. Nous, on fait la même chose que les Américains. Ils ont fait du changement de régime en Libye, enfin, avec la France et la Grande-Bretagne.
En Irak.
En Libye, en Irak, au Kosovo et en Serbie, avec Milosevic, qui a finalement dû quitter le pouvoir après une intervention de l'OTAN. Donc, c'est très malhabile, en fait, de la part de Joe Biden, parce que ça donne une espèce d'ambiguïté sur la politique américaine.
Ça accrédite la thèse de l'impérialisme américain.
C'est-à-dire
qu'il faut, m'être affilié, sinon j'aurai votre peau. Général Vincent Desportes, Emmanuel Macron, dimanche, s'est dissocié quand même. Il a dit, ah non, mais c'est, en gros, il l'a dit sur France 3, jamais j'aurais dit ça, moi.
Je crois qu'il a eu raison. Alors, moi, je voudrais juste citer le président de Biden, le président Obama, qui dit à un moment donné, il ne faut... Quand Biden est son vice-président, il ne faut jamais mésestimer la capacité de Joe à tout faire foirer à la fin. C'est quand même une citation.
C'est lui qui avait dit ça de son vice-président.
C'est Obama. Bon, c'est quand même une citation qui est intéressante. Après, évidemment, il a raison, le président Macron, de s'en dissocier. Je crois qu'il faut comprendre que les champs sémantiques sont différents. Le champ sémantique américain et pas le champ sémantique français. Ensuite, il y a quelque chose.
Alors, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on a une violence du vocabulaire américain qui est assez éloignée.
Un boucher,
voilà, c'est des choses.
Dieu fasse que le régime, qu'il ne soit plus au pouvoir.
Voilà.
La référence à Dieu aussi.
Voilà, alors c'est ça, mais il y a la référence à Dieu qui est importante, donc je me mets sous le regard de Dieu. Alors Jean-Paul II, il est polonais, mais il est représentant de Dieu. Ce qui est important, puisqu'il est catholique, on sait que les Américains sont à 80% croyants. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la guerre n'est pas la même chose pour les Américains. Et pour les Européens. Pour les Européens, la guerre est un objet politique. Pour les Américains, la guerre est un objet moral. Un objet moral, on va lutter contre le mal, toujours. Les Américains ne font jamais la guerre. Ils rétablissent l'ordre moral ou international. Et donc, on a une vision différente de la guerre. Et depuis que l'Amérique existe, 250 ans, on sait bien que les Américains ne sont capables d'aller en guerre que dans une guerre juste. Donc il faut rendre cette guerre juste pour que les Américains acceptent de perdre la recherche du bonheur qui fait partie de leur déclaration d'indépendance. Donc on a toujours une outrance de l'argumentation qui est dans la nature même du vocabulaire et du discours américain. On se rappelle que Saddam Hussein était brutalement devenu, à tort ou à raison, mais en tout cas l'Adolf Hitler du Moyen-Orient, que Milosevic était devenu l'Adolf Hitler des Balkans, ça c'est les couvertures de Time. Donc voilà, on a
cette logique. Alors qu'a-t-elle de... Elle est dangereuse.
Elle est évidemment dangereuse parce que les Américains, ne sachant conduire que des guerres justes, ne conduisent que des guerres totales. Et donc le problème, c'est qu'on a le
face
risque.
Face au mal, on ne fait pas dans la demi-mesure.
Et vous avez raison. Et le problème, c'est bien ça. C'est-à-dire que quelque part, on se rappelle des Anglais refusant de parler aux Allemands qui se rendent en Europe parce qu'on ne discute pas avec le mal. Et on sait bien, on sait que les Américains ont eu beaucoup de mal à commencer à dialoguer avec les talibans en Afghanistan, qui s'y sont mis bien après que les Européens leur ont dit « il faut arriver à parler ». Et donc, on a cette espèce de difficulté qu'on retrouve. Moi, je pense que la fin du discours de Joe Biden est une dérive. Mais néanmoins, elle sort de quelqu'un qui s'est formé sous la guerre froide et qui a vécu ce rapport moral au mal. Et
donc, L'empire du mal.
Alors, c'est embêtant parce que, à la fin, quelque part, alors moi, je crois ce que vous dites, il pourra encore parler, mais quand même, il s'est un peu disqualifié dans sa capacité à négocier avec la Russie, ce qui est tout à fait embêtant. Donc, il faut, je dirais, quand on fait la guerre avec les Américains, on l'a fait, on la fera encore, il faut bien comprendre que nous n'avons pas du tout la même vision de la guerre.
Voilà. Benjamin Haddad.
Moi, je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer quand même la capacité des Américains à faire de la politique. Par exemple, l'Empire du Mal, c'est une formule de Reagan. Personne dans la guerre froide n'a fait autant de diplomatie avec les Soviétiques que Reagan avec Gorbatchev. C'est là qu'on a eu les grands traités sur les contrôles d'armement. Donc, alors effectivement, il y a eu en même temps une posture très dure. Et de la part des Américains, effectivement, il y a ce discours...
Diplomatie par ailleurs,
on peut avoir une clarté morale dans le discours. D'accord. Et faire de la diplomatie en même temps. On parle de la Seconde Guerre mondiale, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont gardé l'empereur Hirohito au Japon. Donc est-ce qu'ils comprenaient bien aussi que c'était une façon de se réconcilier avec la population japonaise. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, ce qui m'ennuie dans ce type de formule, en revanche, c'est quand elle crée une sorte de décalage effectivement entre la réalité politique et le déclaratoire. C'est ce qu'on avait vu par exemple beaucoup sous Barack Obama, qui disait Assad doit partir, mais qui n'a jamais vraiment lui-même mis en place une politique pour soutenir la rébellion en Syrie. Donc là-dessus, ça peut créer des attentes, des confusions, des ambiguïtés. Donc je pense qu'il vaut mieux effectivement se garder de ce type de formule. Mais la clarté morale d'un côté n'empêche pas du tout la diplomatie côté américain.
On est sous deux choses différentes. Parce que je pense aussi qu'il parle à son peuple dans cette affaire-là. Et la difficulté, c'est qu'on parle à deux publics différents.
Alors Benjamin, sous question, parce qu'elle me brûlait les lèvres depuis tout à l'heure, on a parlé de Barack Obama, on a parlé de Donald Trump. Est-ce que quelqu'un s'est amusé à imaginer ce qu'aurait été ce conflit si on avait eu Donald Trump à la Maison Blanche.
Quelqu'un s'est amusé, Donald Trump lui-même, qui d'un côté, dans ses discours, dit Vladimir Poutine est un génie, regardez quel coup incroyable. Il a toujours admiré d'ailleurs les hommes forts et en particulier Vladimir Poutine, mais qui dit dans le même temps, ce ne serait pas arrivé sous ma présidence, et qui rappelle en effet que l'annexion de la Crimée c'était sous Barack Obama, que cette guerre est sous Joe Biden, et que Vladimir Poutine s'est plus ou moins tenu pendant la présidence de Donald Trump. Donc,
et pourquoi ?
Alors, bon, peut-être tout simplement parce qu'il savait qu'il avait un allié à la Maison-Blanche et qu'il n'avait pas besoin de durcir le ton, ou peut-être aussi parce qu'il y avait une posture de dissuasion et une ambiguïté sur le positionnement américain plus dur sous Donald Trump. Il faut se rappeler quand même que c'est sous l'administration Trump que les Américains ont frappé les milices Wagner. Alors, ce n'était pas directement des troupes russes, mais les milices Wagner en 2018 à des résorts en Syrie.
Vladimir Poutine aurait pu se dire « Trump, il est capable de tout, attention, danger ».
C'est effectivement une question qu'on peut se poser. C'est pour ça que moi, je ne tire pas forcément des conclusions hâtives sur le positionnement de Donald Trump. D'un côté, effectivement, il y avait une ambiguïté sur l'article 5 de défense collective de l'OTAN. On sait que Donald Trump n'aimait pas la présence américaine en Europe et était très critique de l'Alliance, mais que dans le même temps, il y avait aussi des postures d'ego, par exemple, qui faisaient qu'il n'aurait pas forcément bien réagi à une invasion qui remet en cause un peu la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Donc, allez savoir, parce que quand on est dans une logique de rapport de force pure, on peut effectivement admirer des hommes forts, mais sans pour autant les laisser vous humilier en public.
Alors, un bon stratège doit savoir se mettre dans la tête de son ennemi, doit savoir chausser les lunettes de son adversaire. C'est ce que vous nous rappeliez, Général Vincent Desportes. Alors justement, Comment les Russes, eux, voient-ils ce conflit? Quelle perception ont-ils de cette guerre? Et qu'est-ce qu'ils voient à la télévision? Comment à la télévision cette guerre leur est-elle racontée? Je vous propose de voir ce reportage, ce sujet de Hugues Huette et Olivier Gardette qui nous décryptent l'un des talk shows les plus populaires de Russie qui parle de cette guerre. On regarde.
C'est l'un des principaux talk shows de Russie, son nom 60 minutes. Un décor soigné, le programme très populaire est diffusé deux fois par jour à la télévision d'État. À la tête de l'émission, un couple, la présentatrice est sur la liste des personnalités sous sanction. Les deux animateurs sont réputés proches de Vladimir Poutine. En ligne de mire des invités ce soir-là, la visite du président américain en Pologne.
Regardez quand il mange ce morceau de pizza. C'est vraiment un symbole de la décadence de l'Occident.
Puis l'émission montre la réponse de Joe Biden à cette journaliste russe.
Nous devons montrer nos intentions sur les sanctions. Le principal pour nous, c'est de rester unis.
Vous comprenez ce qu'il raconte? Vous êtes docteur en sciences politiques, vous allez nous aider à comprendre.
Sourire parmi les invités. Puis vient le temps fort de l'émission, le point sur le front. Ce militaire ne présente que les positions bombardées par les Ukrainiens.
Dans le Donbass, il y a plusieurs quartiers de Donetsk qui sont bombardés. Des tirs d'artillerie et de lance-roquettes. Il y a plus de 400 frappes par jour. À Mariupol, la bataille est dure. Chaque immeuble est une zone de combat.
Une carte de l'avancée des troupes russes en Ukraine ponctue régulièrement l'émission. Le politologue qui commente reprend presque mot pour mot les arguments de Vladimir Poutine pour justifier l'opération spéciale.
Nos soldats, ils ont la mémoire de l'armée rouge qui a combattu les nazis il y a 80 ans. Nos hommes n'ont pas de doute sur le sens de leur mission. Les soldats ukrainiens, qui parlent pourtant la même langue que nous, qui ont la même histoire, ils ont oublié contre qui on s'est tous battus durant la Deuxième Guerre mondiale.
Le talk show politique est diffusé en direct par la chaîne Russia 1, une télévision très influente dans le pays.
Alors Isabelle Lasserre, est-ce que les Russes, ils ont une vision différente de ce conflit que la nôtre?
Non, c'est terrible le reportage qu'on vient de voir. C'est encore d'autant plus terrible depuis hier, puisque le dernier journal indépendant a dû fermer ses portes, en tout cas se mettre entre parenthèses le temps de l'opération spéciale en Russie, puisqu'on n'a pas le droit de dire le mot « guerre » quand on est un journaliste en Russie. Ça explique, en fait, à quel point les Russes, enfin une grande partie des Russes, croient au discours de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sont abreuvés de cette propagande. Alors, on a toujours l'image de Moscou et de Saint-Pétersbourg, de l'élite, des Russes qui voyagent et qui ont des villas en Europe. Mais il faut quand même voir que une grande partie de la population... dans le pays, enfin en dehors des grandes villes, ne regardent que la télévision d'État. Donc ça fait des années que les Russes sont nourris de ce discours de propagande et qu'ils finissent, pour une grande partie d'entre eux, à le croire, exactement. Donc c'est absolument terrible parce que ça explique la passivité des Russes aujourd'hui.
Et général Vincent Desportes, est-ce que si dans une guerre, il n'y a pas la dimension patriotique, tout simplement, qui fait que même... peu importe le camp, vous êtes dans un camp et c'est le cœur qui parle.
Right or wrong, that's my country. Hein, c'est voilà. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est mon pays. Ça joue, je pense beaucoup. Et mais encore une fois, jusqu'à un certain point. Encore une fois, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on va tenir sur des positions comme ça jusqu'au moment où on aura une rupture. Mais il est clair que le ralliement autour du drapeau, enfin, on l'a très bien vu. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. On voit très bien dans la crise de 2001, j'y étais. Hein, tout le monde a mis un drapeau autour de soi, etc. On s'est unis autour de ça et il n'est pas du tout impossible que le même phénomène se produise maintenant en Russie parce que, justement, comme vous l'avez dit, ils ont été complètement matraqués par un certain nombre de fausses vérités, mais qu'ils ont fait leur, bien sûr.
Et est-ce que, en revanche, le pays est suffisamment bien tenu pour étouffer toute contestation qui voudrait s'exprimer, y compris d'ailleurs dans les hautes sphères? On apprend là qu'alors, je ne sais pas comment décrypter ça, Roman Abramovitch, le fameux oligarque, aurait tenté de négocier un accord de paix et on dit qu'il aurait, enfin il dit qu'il aurait peut-être été empoisonné.
Ouais. Oui, bah c'est une méthode typique des Russes. Hein, il y en a plusieurs qui ont été empoisonnés. L'ancien agent Litvinenko, Alexei Navalny, Anna Politkovskaya, la journaliste assassinée, avait d'abord...
Alors ça veut dire quoi ? Que les oligarques, on s'interroge sur leur loyauté si on cherche à les empoisonner.
On s'interroge sur la loyauté de Abramovitch, qui est le premier qui a pris ses distances vis-à-vis de Vladimir Poutine et qui aujourd'hui apparemment fait partie de l'équipe de négociation. Et d'ailleurs, le président ukrainien Zelensky a demandé justement qu'il soit en fait en dehors des sanctions.
Ah ouais. Donc, ils auraient les moyens, ces oligarques qui étaient très fortunés, qui ont tout perdu à cause de cette guerre, ils auraient les moyens de faire trébucher Vladimir Poutine.
Non, parce que justement, là on en revient à votre première question. Oui, pour l'instant, Vladimir Poutine a les moyens de tenir son pays et de le museler. Donc il n'y a plus du tout d'informations indépendantes, il n'y a plus d'organisation des droits de l'homme, et le moindre manifestant est jeté en prison. Alors vous me direz, à ce rythme, il va falloir construire de nouvelles prisons, mais c'est un système totalement répressif, un régime qui est devenu un régime totalitaire, et il tient d'une main de fer...
Comme le KGB tenait le pays.
Bien sûr, et d'ailleurs Poutine est le KGB, puisque c'est sa principale émanation. Et sur le pouvoir des oligarques, le régime de Vladimir Poutine tient sur deux jambes, une jambe économique, les oligarques, mais qui n'ont pas le pouvoir politique ni le pouvoir militaire. Et l'autre jambe, la plus importante, c'est la jambe sécuritaire. Tous les services de sécurité, l'armée, et tout ça est mélangé à la politique. Donc c'est pas, les oligarques ne peuvent pas faire tomber le régime.
Mais alors, on sait très bien qu'on veut gagner cette guerre sans la faire. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intervention militaire pour renverser Vladimir Poutine. Donc qui serait en mesure de faire tomber Vladimir Poutine? Vous avez l'air de dire c'est pas les oligarques, c'est pas le peuple non plus.
Mais peut-être que
donc il est là jusqu'en 2036.
Mais on peut pas, non, on ne peut pas l'exclure. Je suis désolée, on ne peut pas l'exclure. Effectivement, notre logique d'occidentaux, et ce qu'on aimerait qu'il se passe, c'est que la population russe révolte contre Vladimir Poutine, c'est qu'un coup d'État soit organisé dans 3 mois. Ça, on ne peut pas l'exclure, mais on ne peut pas exclure non plus que Vladimir Poutine revienne avec une prise de guerre et qu'à la force du KGB et de la répression, il continue à rester 10 ans au pouvoir. Je pense qu'il faut faire très très attention.
Un Vladimir Poutine qu'on imagine rester au pouvoir mais isolé du monde, encore que si l'Occident est totalement unanime pour critiquer cette invasion en Irak, eh bien nombre de pays dans le monde ont une attitude neutre sur ce conflit et ne prennent pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Voyez ce sujet de Laurent Desbonnets et Brice Boussoir.
Ils restent sur le fil. Des dirigeants de pays qui se veulent neutres ou semblent hésiter entre la Russie et l'Ukraine. En jeu de pouvoir sur le subtil numéro d'équilibriste de certaines puissances. Une neutralité qui peut paraître surprenante pour Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, plus grande démocratie du monde, mais dépendante de Moscou pour son armement. Porte-avions, tanks, avions de chasse, jusqu'à 70% de l'arsenal militaire indien vient de la Russie. Et ce n'est pas tout. L'Inde achète aussi en ce moment des millions de barils de pétrole russe à prix cassé. Ne pas se fâcher avec Moscou, c'est ce que veut aussi Naftali Bennett, le premier ministre israélien. Notamment parce que la Russie est présente militairement en Syrie. Résultat, Israël ne livre aucune arme à l'Ukraine et ne s'associe pas aux sanctions contre Moscou. Exactement comme le président turc Erdogan. Certes bien présent sur la photo de famille de l'OTAN cette semaine, dont la Turquie est membre. Mais proche des deux belligérants, le pays veut jouer un rôle particulier.
Benjamin Haddad, déclaration de Pascal Lamy ce week-end sur France Inter. Pascal Lamy, c'est l'ancien directeur général de l'OMC. Une grande partie du monde ne nous suit pas sur cette affaire.
Oui, mais sur les conclusions à en tirer, moi je ne crois pas qu'il faille être de notre côté dans l'autoflagellation. Évidemment, ça change notre stratégie, notamment sur les sanctions, parce qu'on voit que la Russie peut contourner certaines sanctions, encore que ce n'est pas si évident que ça, par exemple sur les exportations d'énergie, en se tournant vers des pays comme la Chine. Mais au fond, ce n'est pas surprenant, ce conflit il est en Europe. Sur le continent européen, avec des Ukrainiens qui se battent aussi pour les valeurs européennes, qui veulent se rapprocher de l'Union européenne. Ça fait partie aussi de ce débat sur le réarmement et même le réarmement intellectuel et politique de l'Union européenne, dont on parle beaucoup depuis un mois. Pendant longtemps, les Européens, en particulier l'Union européenne, pensaient que c'était tabou de parler, de défendre nos intérêts ou même nos valeurs, et qu'il fallait absolument se draper de valeurs universelles, comme si on était une grande ONG, et qu'il fallait absolument qu'on parle à l'univers entier. Non, c'est effectivement une guerre en Europe, donc c'est normal de voir les Européens, dans une certaine mesure aussi les Américains, en premier front, et se sentir plus concernés que d'autres pays du reste du monde. Moi, ça ne me choque pas plus que ça, même si effectivement, c'est un peu un thème qu'on entend beaucoup en ce moment.
Général Vincent Desportes, c'est vrai que c'est surprenant de voir que, par exemple, le Sénégal s'est abstenu, il n'a pas pris la défense de l'Ukraine agressée quand même. Pascal Lamy dit, toujours, je le cite, hein, « Il y a un ressentiment occidental, il faut en prendre conscience. » En fait, il y a pas mal de parties du monde, ce conflit il est loin, comme vous le disiez, il est en Europe, et puis en plus, ça ne fait pas de mal de voir les Européens qui donnent des leçons à la terre entière se prendre un petit coin sur la gueule.
Et vous avez raison, moi je crois que ça nous ramène à un peu de modestie. Je crois qu'il faut bien que nous comprenions que nous ne sommes plus au centre du monde et nous ne dictons plus la loi au monde. C'est au fond ça que ça nous dit. Et que nos vérités, nos valeurs, on les adore, mais ce sont les nôtres. Et là, notre capacité d'exploitation de nos valeurs, de nos idées a bien diminué. Pourquoi ? Parce que les armes, elles-mêmes, n'ont plus d'effet politique, on l'a dit au début. Et quand les armes n'ont plus d'effet politique, les valeurs sont portées par les armes, et bien les valeurs s'arrêtent à la portée des canons. Ça a toujours été comme ça. Et donc, effectivement, c'est une affaire intra-européenne. Et je pense qu'un certain nombre de gens disent, ça fait des siècles que vous nous racontez comment il faut respirer. Eh bien, vous voyez bien que dans cette affaire-là, vous êtes dans des problèmes. Eh bien, allez-y, réglez vos problèmes. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de clarté morale. Et en particulier, je pense à Israël. Moi, je pense qu'Israël, à un moment donné, il faut savoir. On peut pas renier un peu tout ce qui a fait qu'Israël est né, les massacres, etc. Et je comprends bien les problèmes de sécurité vis-à-vis de la Syrie
et de
l'Iran. Je comprends bien tout ça. Mais à un moment donné, il faut savoir choisir son camp. Et là, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de clarté morale.
Choisir son camp, Benjamin Haddad, est-ce que c'est le grand retour du lien transatlantique ? On a vu un Joe Biden acclamé en Pologne. Et finalement, ces valeurs, c'est l'Europe et l'Amérique. Et peut-être qu'elles ne sont pas partagées par le reste du monde, mais nous, c'est ce qui nous lie. Est-ce que c'est le grand retour de l'OTAN ?
Oui, c'est le grand retour de l'OTAN dans une certaine mesure. C'était déjà le grand retour de l'OTAN en 2014, hein, lorsqu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine. On avait vu les États-Unis se réinvestir et envoyer des troupes déjà dans le cadre des opérations de réassurance en Pologne et dans les États baltes. On a vu beaucoup plus, hein, des dizaines de milliers qui sont arrivés avec des nouvelles missions en Slovaquie ou en Roumanie. C'est pas anodin, hein, puisque c'était l'un des objectifs de Joe Biden, déjà pour tourner la page des années Trump, de remettre l'alliance transatlantique et le lien des démocraties libérales au centre de la politique étrangère américaine. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le changement structurel de long terme qu'on voit quand même dans la politique étrangère américaine, qui est le pivot vers l'Asie, la rivalité stratégique avec la Chine. Et ça ne changera pas. C'était déjà le cas sous Barack Obama, puis Donald Trump. Effectivement, les Américains, une fois de plus, sont rappelés un peu contre leur gré en Europe, puisque ce n'est pas une guerre que souhaitait Joe Biden. Ça quand même met un peu en péril ses priorités de politique asiatique. Mais je crois que pour les Européens, il ne faut pas non plus en tirer des mauvaises conséquences, des mauvaises conclusions. Et il faut aussi apprendre à se prendre nous-mêmes en charge via l'Europe de la défense.
C'est compliqué, hein, parce qu'ils avaient laser. Parce qu'on disait après l'épisode Trump, finalement, les Américains, ce n'est plus tout à fait nos alliés. Ils ne s'intéressent plus qu'à l'Asie. Il faut qu'on se prenne en main tout seul. Sauf que là, on le voit, dès qu'il y a une crise un peu sévère, allô Washington, venez nous aider.
Allô Washington, et le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que les Américains ne vont pas remettre, bien entendu, leur pivot asiatique en question, mais ils font une espèce de parenthèse pour repivoter, contraint et forcé, vers l'Europe.
Donc ils sont toujours là.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première puissance mondiale, et il y a une crise majeure en Europe. En plus, cette guerre est quand même menée par une puissance nucléaire, la Russie. Donc, la première puissance mondiale ne peut absolument pas rester indifférente à ce qui se passe. Donc, provisoirement, en tout cas, les États-Unis sont à nouveau rattrapés par l'Europe. On a vu Joe Biden aujourd'hui, le dossier ukrainien. Au début, le dossier ukrainien lui brûlait les mains. Il l'embarrassait. Il aurait préféré qu'il n'existe pas. Puis, il est obligé. Il est à nouveau happé par l'Europe.
L'Occident existe et doit rester uni. Mais une des grandes leçons de cette affaire-là, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, nous devons bâtir notre autonomie stratégique. Enfin, devenir, nous, l'Europe, la plus grande puissance économique du monde, nous devenons devenir un acteur géopolitique, être capable de compter sur nous-mêmes.
Eh bien, merci beaucoup, c'était passionnant. Et c'est sur ce constat que se termine cette émission. L'Info c'est clair, disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, à demain.